Merci Yana, c'est toi qui m'avais contactée pour participer à ce séminaire et ben, merci aux organisateurs en général. Moi j'ai suivi le séminaire depuis le début, j'ai raté quelques séances parfois, mais c'était vraiment toujours un plaisir d'y assister et du coup c'est aussi un plaisir d'y participer, surtout sur cette thématique silence et minorité qui finalement se prêtait bien à mon sujet de recherche. Donc comme tu le disais Yana, je travaille sur le conflit armé interne au péruvien et donc voilà, j'ai ce thème du silence qui transparaît, particulièrement quand on se centre sur la figure de Landin. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma communication La Silenciosa, Landin et le silence au temps du conflit armé interne péruvien. Donc La Guerra Silenciosa, c'est une expression qui n'est pas de moi. C'est le titre d'un cycle de romans qui a été écrit par l'écrivain péruvien Manuel Scorza. C'est des romans qui ont été publiés entre 1970 et 1979. Et donc en fait, l'auteur est allé dans les Andes. Et il a été témoin des guérillas paysannes qui secouaient la Sierra péruvienne pendant les années 60. Et donc, c'est ça qu'il fictionnalise dans toutes ses œuvres. Et il a été témoin également de la situation explosive qu'il y avait dans les Andes, où le conflit armé interne était finalement en germe. Donc, je trouve que l'expression la guerra silenciosa correspond finalement bien. Elle permet de bien décrire le conflit armé interne péruvien si on s'intéresse particulièrement au sort de Landin au sein de ce conflit armé interne. Landin au Pérou, ce n'est pas une minorité démographique. Il est présent tant dans la Sierra que sur la côte. Il y a eu de grandes vagues de migration, notamment dans les années 50. Mais malgré tout, celui qu'on a pu appeler El Indio a toujours été considéré comme un citoyen de seconde classe, une personne mineure que l'on n'écoute pas et que l'on ne laisse pas parler. Il y a bien l'indigénisme qui a tenté d'aborder ce problème indigène, mais finalement, il ne lui a pas donné la parole. Le silence de Landin est exacerbé pendant le conflit armé interne, qui a donc lieu entre 1980 et 1992, et où donc s'affronte le Sentier Lumineux, un groupe maoïste qui tente de prendre le pouvoir à travers la lutte armée, et les militaires et les paramilitaires qui sont mandatés par l'État et qui tentent de le freiner, de l'arrêter. Et paradoxalement, le Sentier Lumineux, il prétend prendre les armes au nom de Landin, mais on peut observer qu'il ne lui donne jamais la parole. D'ailleurs, c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Donc la population andine, dans ce contexte, elle est prise entre deux feux, entre deux violences. D'une part, entre celle des sentiéristes qui s'affirment comme seule autorité dans les zones andines, et de l'autre, les militaires qui exercent une répression aveugle, puisque comme les sentiéristes se cachent au sein de la population andine, on considère que tout andin est sentiériste, et donc il faut éliminer tous les andins. J'exagère, mais en gros, c'était la pensée des militaires. On voit bien le racisme qu'il y a derrière tout ça, et je reviendrai là-dessus également. Pour bien montrer ce silence auquel est soumis Landin, dans mon introduction, je voulais vous parler du cas du massacre d'Uchulakay, qui a eu lieu en 1983. Donc Uchulakay, c'est une petite communauté, c'est un petit village perdu au fin fond des Andes. Je l'ai signalé sur la carte, j'espère que vous voyez le petit rond rouge ici. Et donc, dans cette communauté, les villageois décident de s'organiser contre le sentier lumineux. Sentier lumineux qui est extrêmement violent, qui amène la mort, les juicios populares, etc. Et qui empêche également les paysans de vaquer à leurs occupations, puisque les entrées et les sorties des villages sont contrôlées, donc on ne peut pas accéder aux champs, etc. quand on veut. Bref, ça immobilise l'économie locale finalement. Donc, ils mettent à mort 12 sentiéristes en janvier 1983. Et quelques jours plus tard, lorsqu'arrivent 8 personnes à pied à la communauté, en fait, ce que les communélos ne savent pas, ce sont 8 journalistes. Quand ces 8 journalistes arrivent pour venir enquêter sur les faits de violence qui ont lieu dans les Andes, ils les exécutent parce qu'ils pensent qu'il s'agit de membres du Sentier Lumineux qui viennent en fait se venger, exercer des représailles. Donc, on a 8 journalistes qui sont mis à mort. Je vous ai mis ici des photographies qui ont été prises par Willy Reto, qui était l'un de ces journalistes. Et donc, c'est les photographies qu'on a retrouvées dans sa pellicule après sa mort. Pour éclaircir ces faits, le gouvernement décide de créer une commission d'enquête qui est dirigée par Mario Vargas Llosa, que vous voyez ici. J'espère que vous voyez ma souris. Donc, futur prix Nobel. Il sera candidat à la présidence du Pérou, pardon, en 1990. Il est envoyé sur place et donc il faut enquêter en recueillant les témoignages des comuneros. Ils doivent rédiger un rapport dans ce sens. Le paradoxe, c'est que les 3 membres de cette commission, ils ne parlent pas du tout le quechua, alors que, évidemment, les comuneros ne parlent, eux, pas espagnol. Donc on a un problème ici. de langue. Donc, bien évidemment, les membres de la commission passent par des interprètes, des traducteurs, etc. Mais on a quand même un problème de filtre et les paroles des comuneros n'apparaissent finalement jamais telles quelles dans le rapport qui sera dressé. Et c'est ce qu'indiquent Claire Sourpe et Modesta Suárez, donc qui sont mes deux co-directrices, dans leur article Uchurracay, du massacre au discours, l'élaboration d'une mémoire. Il n'y a pas de trace dans le texte de la parole directe des témoins, ni en quechua, ni en espagnol. Les témoignages ne sont pas livrés tels qu'ils ont été entendus, mais au contraire, tout passe par le récit, donc par le prisme des trois signataires. Donc ici, on voit bien qu'il y a différents filtres qui sont appliqués, celui des traducteurs, forcément, et des auteurs du rapport également. Donc c'est bien un exemple de la réduction au silence de la population andine pendant le conflit armé interne. Et ça, on le voit, on l'observe non seulement dans les rapports officiels de ce type, mais aussi en littérature. Mario Vargas Llosa publie en 1993, soit 10 ans après les faits, un roman qui s'appelle Les Tumanos Andes, qui est sans doute le premier roman dont on se rappelle en général quand on pense au conflit armé interne. Et ce roman s'ouvre sur une scène d'interaction entre Lituma, un soldat qui vient de la côte, et une vieille femme andine. Donc je cite: Cuando vio aparecer a la India en la puerta de la choza, Lituma adivinó lo que la mujer iba a decir. Y ella lo dijo, pero en quechua, mascullando y soltando un hilito de saliva por la comisura de su boca sin dientes. ¿Qué dice, Tomasito? No le entendí bien, mi cabo. Donc, comme dans le rapport d'Uchulacay, finalement, les paroles de la dame n'apparaissent pas dans le texte. Et l'attention est portée non pas sur ce qui est dit, mais sur la façon dont c'est dit sur cette bouche, finalement, édentée, d'où sort un fil de salive, etc. C'est vraiment la construction de la figure de l'Andin comme barbare qu'on retrouve ici. Et donc un andin qui est réduit au silence. Donc l'andin est privé de parole tant en littérature qu'en politique. Mais Mario Vargas Llosa n'est pas le seul, évidemment, à mettre en scène le conflit dans sa fiction. Au milieu des années 1980, on a des auteurs andins qui commencent à publier. La narrativa andina voit le jour. Je reviendrai ensuite sur sa définition. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de me demander dans quelle mesure cette narrative andina donne-t-elle la parole à l'andin et dans quelle mesure interroge-t-elle le silence auquel il était soumis. Donc, dans un premier temps, j'essaierai de montrer comment les écrivains de la narrative andina demandent à se faire entendre au sein d'un panorama littéraire qui est dominé jusqu'alors par le canon criollo, créole. Ensuite, je ferai le lien entre silence et violence en montrant comment la narrative andina met en scène le monopole de la parole par l'autorité, que sont les sentiéristes et les militaires. Et enfin, comment la narrative andina donne la parole aux andins, c'est-à-dire comment les textes font entendre la langue andine. Donc, pour commencer, il s'agira de voir si la narrative andina, finalement, est une littérature mineure, pourquoi elle le serait. Donc, elle apparaît comme une littérature mineure face à une narrativa criolla, créole, qui est issue de la côte de la capitale. Donc, il s'agit de se demander pourquoi et comment le canon littéraire péruvien se concentre-t-il dans la capitale? Pourquoi la production culturelle qui émane du reste du pays et en particulier des Andes est-elle considérée comme marginale ou mineure, voire régionale, comme je l'ai souvent trouvé dans mes recherches? Donc, finalement, si on s'intéresse à l'établissement du canon criollo au Pérou, il faut s'intéresser à l'histoire du pays. Donc, au Pérou, les colons s'établissent d'abord sur la côte, notamment à Lima, qui est fondée en 1535 par Pizarro sous le nom de la Ciudad de los Reyes. Cette ville, elle devient la Ciudad Letrada, donc là c'est un concept qui a été créé par le critique uruguayen Ángel Rama, c'est-à-dire que c'est un centre de pouvoir et en même temps c'est un centre culturel où se concentre l'élite. Ángel Rama montre bien qu'en Amérique latine, il y a vraiment un lien puissant entre le pouvoir et l'écriture. Puisque l'écriture, par exemple, elle fige, elle pérennise les lois, les textes de propriété, les titres de propriété, etc. Donc maîtriser l'écriture, c'est aussi avoir le pouvoir et inversement. C'est particulièrement visible sur un territoire où les autres cultures sont agrafes, où elles ne maîtrisent pas l'écriture. Donc les colons ont le monopole du pouvoir et de l'écriture. L'indépendance qui arrive en 1821, elle ne suppose pas de changement. Puisque les créoles, les descendants des colons, ils continuent de détenir le double monopole de l'écriture et du pouvoir, selon le concept de colonialité du pouvoir qui a été développé par Aníbal Quijano, sociologue péruvien. Et donc, cette colonialidad del poder, elle se définit comme les rapports coloniaux de domination qui émergent avec la conquête de l'Amérique et s'établissent progressivement à l'échelle du globe, imposant au passage une hiérarchie planétaire des peuples en fonction des critères raciaux, sexuels, épistémiques, spirituels, linguistiques, esthétique, etc. Donc là, c'est une définition de Philippe Collin et de Lycelle Quilos dans un ouvrage qui vient juste de paraître. Donc finalement, ce que Aníbal Queijano met en lumière, c'est que les relations, qu'il existe des relations de domination que les métropoles continuent d'exercer sur leurs anciennes colonies, même après l'indépendance. Si on ramène tout ça à la littérature, on peut voir que le canon criollo, il est dominé par des codes occidentaux et qu'il occupe une position hégémonique du point de vue de la production et de la distribution à travers les maisons d'édition et la presse, et notamment et également pardon, une position hégémonique du point de vue de la visibilité et de la reconnaissance au travers des prix littéraires et de la critique universitaire. Donc, au-delà de ça, toute littérature qui répond à une culture et à un imaginaire différent est considérée comme régionale, comme mineure, et elle peine à se faire connaître. C'est le cas de la narrativa andina, qui est celle qui m'intéresse. Donc, celle-ci émerge dans les années 80 et elle est définie par le critique péruvien Juan Alberto Osorio dans son article éponyme La narrativa andina, publié en 1995. Il dresse un portrait robot des auteurs que je vais vous lire ici. El productor de la narrativa andina es siempre un intelectual, generalmente docente universitario, proveniente de las clases altas o medias provincianas, conocedor, a veces participante en diversos grados, de elementos culturales ancestrales de raíz indígena. Et il ajoute, la narrativa andina es pluridiscursiva como expresión de las varias culturas existentes en el territorio nacional. Donc on voit bien que c'est quelque chose de très différent de la narrativa criolla, créole. C'est-à-dire que les producteurs ici sont issus du milieu provincial. Andine, forcément, elle est ouverte à des éléments culturels qui échappent au canon criollo. Elle est le reflet de l'hétérogénéité culturelle propre au Pérou. La définition de la narrativa andina va se faire également dans un second temps, au cours du Primer Congreso Internacional 25 años de narrativa peruana 1980-2005. Donc, c'est un congrès qui se tient à Madrid en 2005. Et donc, au terme du congrès où les auteurs présentent etc., leur vision de la littérature, les auteurs andins dénoncent leur marginalisation du milieu culturel péruvien et donc leur minorisation. Donc, les nouvelles caractéristiques, ce qui va venir caractériser maintenant cette narrativa andina, c'est les questions de réception et de visibilité. On a donc une théorisation de cette marginalisation par Luis Nieto de Gregori. Donc, c'est un auteur que moi j'étudie qui est né à Cusco, donc auteur andin, qui nous dit dans son article Me friegan los cóndores que les auteurs andins ven en los concursos literarios, pardon, la única posibilidad de alcanzar cierta notoriedad y reconocimiento a nivel nacional. Generalmente recurren a la autoedición para difundir lo que escriben, recurren a circuitos informales de distribución, venta a maestros de colegio y en general en instituciones, venta en pequeñas librerías de provincias, sobre todo en sus lugares de origen y de residencia. Donc on voit bien comment, dans quelle mesure cette narrativa andina est minorisée ici. Il faut passer par des concours pour pouvoir réussir à publier, on passe également par l'auto-édition, etc. Donc la narrativa andina, elle est marquée par une diffusion restreinte qui est basée sur des stratégies alternatives au système dominant. Finalement, on peut définir la narrativa andina comme une littérature précaire, et donc c'est pour ça également que se développe en son sein le genre des récits brefs, genre catégorisé comme mineur en général. Et donc c'est vraiment un genre caractéristique de ces écrivains non professionnels qui doivent exercer un autre métier, notamment l'enseignement, pour pouvoir vivre. On peut pas vivre de son écriture quand on n'est pas, quand on se trouve dans cette situation de minorisation. Donc les auteurs de la narrativa andina publient des contes, des nouvelles. Il s'agit en fait d'une stratégie éditoriale à moindre coût. Donc le même auteur, dans un entretien que j'ai pu avoir avec lui, m'a indiqué. Cuando yo empecé a escribir, decidí primero hacer publicaciones pequeñas, de pocas páginas, que puedan ser más fáciles de vender para que no costase mucho la edición del libro. Entonces, es por eso que edité primero por partes mis libros y después, cuando los tres estuvieron, decidí reunirlos en un solo libro. Donc là, il nous parle d'un cas bien précis, qui est celui de ces trois récits que je vous ai mis, mais bon, je crois que c'est pas très net, mais bon, vous avez quand même les couvertures. Donc, l'auteur publie en 1987 un récit bref de 36 pages intitulé Harta cerveza y harta bala. Ensuite, il publie La joven que subió al cielo, 64 pages en 1988. Et enfin, comment cuando estábamos vivos, 6 pages en 1989. Et il va venir les placer dans le recueil Con los ojos para siempre abiertos, qui sera publié en 1990. Donc l'auteur m'a expliqué que c'était une façon d'échelonner les coûts de publication. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une littérature précaire ici. L'auteur m'a également indiqué qu'il s'agissait d'autopublication, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé par des maisons d'édition pour publier. C'est lui qui a fait tout le travail, même si en fait, ce n'est pas vraiment lui, c'est un travail qui a été fait en famille. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les couvertures le petit renard rouge qui est présent sur les couvertures. Donc ça, c'est le logo de la revue El Zorro de Abajo, de son cousin Carlos Iván de Gregori, qui est un très célèbre anthropologue au Pérou, et qui donc lui a permis d'utiliser ce logo. Et la mise en page de ses ouvrages a été faite par son frère, par le frère de Luis Nieto de Gregori, Gonzalo Nieto de Gregori. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui se fait en famille, ça démontre bien que c'est une littérature considérée comme mineure. Donc tous ces éléments m'ont permis de montrer que, il y a vraiment une précarité de la narrative andina qui peine à se faire entendre finalement au sein du système éditorial péruvien qui est dominé par le canon criollo, qui explique aussi l'essor du récit bref, genre mineur, comme j'ai pu le mentionner. Mais tous ces éléments, ça m'a permis aussi de montrer qu'il y a vraiment une ingéniosité de la part de ces auteurs qui trouvent des espaces marginaux de publication. Et c'est également ça qui explique le boom de la narrative andina dans les années 80 et 90, c'est-à-dire de façon tout à fait contemporaine avec le conflit armé interne, qui deviendra finalement leur sujet de prédilection. Donc maintenant, il s'agira de voir comment la narrative andina raconte-t-elle le silence qui est violemment imposé à la population andine. Donc c'est là ma deuxième partie. Et donc, je voudrais vous montrer, démontrer que la narrative andina illustre d'une certaine façon la manière dont, dans le cadre du conflit armé interne, l'Andin est un sans-voix. C'est une expression de Gayatri Spivak dans Les subalternes peuvent être parlés. Donc c'est un subalterne qui a été privé de parole. Et il est privé de cette parole face aux sentiéristes et aux militaires qui monopolisent la parole. Donc pour ça, je vais d'abord me baser sur un texte qui s'intitule Solo una niña de Mario Guevara Paredes, qui met en scène ce monopole de la parole par les militaires en particulier. Donc le texte met en scène un camion qui transporte des passagers et qui est arrêté par une patrouille de soldats, de militaires qui recherchent des membres du Sentier Lumineux. Ils interrogent la protagoniste, qui est une fillette, parce qu'elle porte les mêmes noms de famille qu'un sentiériste qui figure sur leur liste. Et donc cette fillette, elle est triplement subalterne. Déjà, elle est andine, c'est une fille, donc elle est jeune et c'est une femme en devenir. Mais à tout ça s'ajoute aussi une subalternité linguistique. C'est-à-dire que quand elle est interrogée sur son lien supposé avec le sentiériste Fortuna Thomas Maniquispe, elle répond « No conozco ». Donc je vous l'ai mis ici sur le diaporama. On voit bien qu'il y a une absence du pronom personnel. On constate aussi qu'il y a une transcription de cet accent andin, ce CCO. Et tout ça indique potentiellement une mauvaise maîtrise de l'espagnol, qui est la langue du pouvoir au Pérou, puisque ça a été la seule langue officielle jusqu'en 1975. Donc, ces deux mots, cette intervention si brève, c'est le seul moment où la fillette va pouvoir faire entendre sa voix au cours d'un interrogatoire, pardon. Et ensuite, elle va être réduite au silence face aux militaires qui sont discursivement en position de force. Les militaires, eux, sont convaincus qu'elle est liée au Sentier Lumineux, et donc ils ne l'écoutent plus. On peut voir que, au fil du texte, la ponctuation négative laisse place à une ponctuation affirmative, un ton plus assertif. On passe comme ça de « Como te llamas ?» point d'interrogation, à « ¿Dónde está tu hermano Fortunato ?» point. Donc on voit bien ici qu'il ne s'agit plus de questions, mais que les militaires viennent affirmer que la fillette est en lien avec le Sentier Lumineux. Donc en réduisant la fillette au silence, ils lui imposent également leur version de la réalité. Cette imposition du silence, elle est aussi liée à l'identité ethnique de la fillette. Et ça, on peut le voir puisque quand les soldats passent à la violence physique, ils lui disi « Vas a conocerme a mí, India de mierda ». Donc on voit bien dans l'insulte que cette insulte reflète bien le racisme de ces soldats qui sont originaires de la côte et pour qui l'Andin était un être inférieur, donc à qui nier le droit de parole. Au-delà de ça, au fil du texte, on peut également voir que le silence n'est pas imposé seulement à la fillette, mais à tous les passagers. Donc on voit bien que c'est vraiment lié à une identité ethnique en général. Quand une paysanne et un chauffeur de bus, et le chauffeur du camion, pardon, tentent de s'interposer, ils sont réduits au silence par les soldats. Ils sont réduits au silence soit par la menace, donc on le voit dans la première citation. El oficial tocando con los dedos la pistola que relucía en el cinto le dijo: Te vas o te meto un balazo. Ils sont également réduits au silence par la violence physique directement. El oficial corrió hacia la mujer y la abofeteó en el acto. Luego, señalando con un dedo a la niña que se arrastraba en el suelo, dijo: «Tú también eres familiar de esa mierda». Donc on voit bien que toute tentative de protestation de la part des Andins est considérée comme une tentative de subversion et donc potentiellement un soutien anti-lumineux, et ça juste dans la violence de ces militaires. Donc l'Andin doit rester silencieux s'il tient à sa vie. À quel on peut en arriver? Le silence de l'Andin finalement ne peut être brisé que par la mort. C'est ce que je vais montrer maintenant. Finalement, quand j'ai commencé à travailler sur mes textes, j'ai été frappée par le nombre de textes qui mettaient en scène des personnages narrateurs qui prennent la parole après avoir trouvé la mort. Et donc, c'est sans doute lié à la cosmovision andine, au sein de laquelle la mort et la vie ne sont pas antagoniques. En fait, la mort, ça fait partie du cycle de la vie. Donc, ça expliquerait pourquoi on trouve autant de ces narrateurs. Et c'est un cas qu'on retrouve dans le texte Hacia el Janak Pacha de Oscar Colchado Lucio, un autre auteur andin. Donc, ce titre, ça fait référence à l'une des trois dimensions du monde, le Janak Pacha. Donc, c'est le monde d'en haut, auquel accèdent les âmes au terme de leur existence terrestre. Au-delà du Janak Pacha, on a le Kai Pacha, ici et le maintenant, et l'Uku Pacha, qui est le monde d'en bas. Donc c'est ça les trois dimensions du monde. Et lui s'intéresse au Janak Pacha, qui est ce monde auquel va accéder son personnage narrateur qui vient de trouver la mort. Le protagoniste, dans ce texte, procède au récit de sa propre mort. Je cite: « Tu ya estás en las últimas cuando el último hilito de aire se te escapa. Y ahora con el cuerpo liviano, como pedazo de neblina no más que fueras, paradito estás viendo desde un costado de la plaza cómo a tu cuerpo lo están pateando. » Donc on voit que la mort ici, elle n'est pas du tout synonyme de silence puisqu'il est capable de raconter sa mort au moment même où elle se produit. Et elle n'est pas non plus synonyme de silence puisqu'on va comprendre qu'elle est finalement ce qui permet au garçon d'accéder à la parole. En fait, comme son oncle et comme sa mère, il a été enrôlé de force par le sentier lumineux sans pouvoir donner son avis. Je cite: «Te topaste con el pelotón guerrillero que dice que estaba yendo al pueblo a vengar la muerte de tu madre, de tu tío y de los demás combatientes caídos, y te pidieron incorporarte al ejército popular, compañero». Et en fait, ce qui frappe, c'est que dans la suite du texte, on n'aura pas la réponse du personnage, on aura une prolepse qui donc omet totalement la suite du dialogue et qui ramène au moment de l'énonciation où le personnage a trouvé la mort au sein du sentier lumineux. Donc on comprend bien que s'il a trouvé la mort au sein du sentier lumineux, il a rallié le sentier lumineux, mais on n'a jamais sa réponse. Donc il est totalement privé de parole et on comprend qu'il a été enrôlé de force par les sentieristes. Donc la narration rend de façon textuelle la façon dont la voix de la population andine ne se fait pas entendre pendant le conflit armé interne. La prosopopée ici, elle montre que seule la mort permet à l'Andin de rompre le silence qui était imposé par le sentier lumineux et de devenir narrateur de sa propre histoire. Donc il s'agira maintenant de voir quelle forme prend la parole de ces personnages andins dans les textes, et bon, vous avez déjà eu quelques échantillons, et comment rendre à travers l'écriture la langue andine marquée par l'influence du Quechua et de l'Aymara. Donc il s'agit de ma troisième partie, où j'essaie de montrer comment la narrativa andina donne la parole aux Andins en faisant entendre cette langue andine. Donc déjà, j'ai voulu faire un petit panorama de la situation linguistique au Pérou, donc au conflit armé interne, bien sûr. Donc je me suis basée sur le recensement de 1993, donc qui a été fait juste au terme du conflit. Donc ce recensement a mis en lumière le fait que 79,78% de la population avait le castillan pour langue maternelle, 16,46% de la population quechua pour langue maternelle et 2,28% de la population péruvienne avait l'aymara pour langue maternelle. Donc on voit bien que la plupart de la population parle à le castillan pour langue maternelle, mais on a quand même une forte présence du quechua et de l'aymara. Ces deux langues seront d'ailleurs reconnues par la Constitution de 1993. Donc dans un pays majoritairement hispanophone, la question qui se pose, c'est comment faire parler un locuteur quechuaphone dans des œuvres en espagnol destinées à un public hispanophone plus largement. La littérature indigéniste qui s'est développée dans le premier tiers du XXe siècle, qui donnait pour la première fois une place à l'indigène et qui posait la question de son intégration, elle ne se posait pas du tout cette question, c'est-à-dire que l'indigène s'exprimait en castillan, ce qui est totalement invraisemblable. Arguedas, José María Arguedas, c'est le premier, dans les années 1950, à soulever le problème de vraisemblance et d'éthique également que cela pose. Donc lui, pour faire parler l'Andin, il décide d'inventer de toutes pièces une langue métisse qui est marquée par l'hétérolinguisme. C'est client émaillé de mots et de structures quechua, et je cite là la thèse de Gérard Porras, La musique dans l'œuvre de José María Arguedas. La narrativa andina, finalement, va suivre la ligne de José María Arguedas, contrairement à Mario Vargas Llosa, avec les exemples que j'ai pu citer en introduction. Et donc, cette narrativa andina, elle va faire entendre la langue andine où le quechua se mêle à l'espagnol. Donc, je vais m'intéresser maintenant aux façons dont les auteurs font cohabiter ces deux langues. Donc, on a différents procédés qu'on peut retrouver dans les textes. D'abord, on a le procédé le plus évident, qui est celui de la traduction. Donc, Blecker Alarcón Siruela, dans Mi padre fue de los buenos, nous fait suivre les paroles en quechua de la traduction en castillan entre parenthèses. Donc, je ne lirai pas le quechua parce que je ne parle pas du tout cette langue, mais donc en espagnol, ça donne Anoche en mis sueños estaba saboreando capulíes. Donc, on peut remarquer ici que le quechua est positionné avant le castillan. Et donc, il vient frapper l'oreille du locuteur hispanophone, il vient frapper l'œil du lecteur hispanophone. Et on peut également noter que c'est l'espagnol qui est balisé entre parenthèses. Donc, selon Myriam Suchet, dans l'imaginaire hétérolingue, il s'agit d'un dispositif d'étrangement des langues. Donc, la langue qui est ici signalée par les parenthèses, c'est l'espagnol qui semble être la langue étrangère finalement ici. On a également une autre technique qui est celle du renvoi par Edward Stone, qui consiste à coller au terme en langue étrangère une explication de façon à le rendre intelligible. C'est ce qu'on retrouve ici dans le texte de Oscar Colchado Lucio avec El niño senderista, el huambra terruco. Donc ici, le quechua s'articule à l'espagnol de façon plus subtile, même si on a des guillemets qui viennent encadrer le quechua. Et on voit également que le quechua adopte le terme espagnol terruco, alors que l'espagnol adoptait le terme senderista. Donc terruco, c'est un terme, un néologisme qui est apparu en même temps que le conflit armé interne, et donc c'est une façon de se référer aux terroristes. Donc on passe de sentieriste, sentieriste ça fait référence à tout un imaginaire, ça met en avant également l'idée qu'il y avait des causes derrière, derrière les actions violentes, on passe de ça à terroriste, où vraiment il n'y a que la violence qui est mise en avant, et donc ça justifie le fait qu'il faille réprimer cette violence. Donc on voit bien ici en quechua une vision peut-être plus partisane qu'en espagnol. Ensuite, on a un autre procédé qui est celui de l'intercalation, et on le retrouve ici dans plusieurs exemples. Donc l'intercalation, ça consiste à insérer du lexique quechua dans des textes espagnols, mais sans le traduire. Ça permet de rendre la couleur andine de la langue, et ça permet également d'exprimer l'intraduisible. Surtout que, selon José María Arguedas, le quechua permet de mieux capter l'essence des êtres, et donc ça justifie cette intercalation de termes quechua, pardon. Donc Julián Pérez, qui est un autre auteur de mon corpus, né à Ayacucho, donc vraiment l'épicentre du conflit armé interne, pour qualifier les soldats, il va utiliser différentes appellations qui font référence à la couleur noire. C'est Yana en quechua. Donc il utilise l'appellation Yana Umas, qui signifie tête noire, et également Yana Sumru, avec sa variante Corazón Yana Yana, donc ça c'est cœur noir. Donc l'intercalation ici, elle permet d'identifier les soldats à leur cagoule noire et elle permet également de mettre l'accent sur la noirceur de leur âme. Donc le quechua est mis au service de la narration, il permet de rendre compte du regard de la population andine sur les forces de l'ordre. On se doute que ce n'est pas très positif cet emploi de la couleur noire, cette référence à la couleur noire. Ensuite, les langues cohabitent également selon d'autres procédés où, à mon sens, le métissage linguistique est beaucoup plus étroit. On a tout d'abord la phonétisation de l'espagnol quechuisado. Donc, il s'agit ici d'illustrer la prononciation du castillan avec l'accent caractéristique des locuteurs quechua. Dans Agua Fuerte de Feliciano Padilla, une jeune femme andine qui deviendra la compagne du protagoniste fait référence à la foudre par le terme rayo, donc au lieu de rayo. Donc ça montre bien l'accent quechua ici, puisque en quechua, on n'a que trois voyelles, A, I et U, tandis qu'en castillan, on en a cinq. Donc on a une instabilité entre les sons O et U, et E et I. Donc voilà, c'est une façon de faire entendre, alors qu'on est en train de lire, cette langue andine. Les deux langues cohabitent également dans les problèmes d'accord qu'on peut rencontrer dans la bouche des personnages andins, avec par exemple cet exemple ici, Une mère de famille qui se lamente de la mort de son époux en disant « La nostalgia lo siento aquí en la garganta ». Et donc, un problème d'accord entre le féminin et le masculin qu'on peut expliquer par l'indistinction des genres grammaticaux en quechua. Donc, ça montre bien comment les deux langues sont imbriquées ici. Et enfin, le procédé qui est sans doute le plus intéressant, c'est celui de l'accommodation, c'est-à-dire la création de néologismes qui viennent mêler les deux langues. Donc, je vous ai mis un exemple tiré de Hayataki, des Socrates Usunaga Waita. Donc, le protagoniste ici fait référence à son dos meurtri sous les coups des soldats avec l'expression « milomito bien charquia ». Donc, on a déjà l'énition du D intervocalique propre à la langue orale. Donc, ce néologisme formé à partir du substantif quechua « charqui », qui signifie « viande séchée », auquel est accolée la terminaison en « ado », propre au participe passé castillan. Donc ici, les deux langues coexistent dans un terme qui n'appartient ni à l'une ni à l'autre, un terme qui est finalement pleinement métisse. Le terme « charqui » est employé ici, on peut supposer que c'est aussi parce qu'il fait partie du vocabulaire quechua qui est connu un peu de tous, donc il n'y a pas besoin de traduction exacte, on peut même l'adapter en espagnol. Et il renvoie à la vie quotidienne andine. Donc finalement, tous ces exemples montrent que c'est possible de faire entendre une langue métisse et donc convoquer un imaginaire propre à la Sierra péruvienne. Parce que le charqui, c'est vraiment la viande que vont consommer les locaux pendant qu'ils vont travailler dans les champs. Donc il me semble que la langue andine, c'est le seul moyen finalement de transcrire au sein de la narrativa andina l'expérience par un conflit qui a lieu essentiellement dans les Andes. Donc pour conclure, à mon sens, c'est important de faire entendre cette langue andine dans les textes parce que les locuteurs quechua étaient la cible privilégiée des violences des années 80 et 90. C'est ce qu'a mis en lumière la Commission de la vérité et la réconciliation, qui a été créée en 2001 par le président Malentín Paniagua. Donc celle-ci a montré dans son rapport final publié en 2003 que 75% des 69 200 morts et disparus dans le cadre du conflit armé interne, avaient pour langue maternelle le quechua ou une autre langue native. Pardon. Donc on parle de 75% des victimes, ce qui est quand même énorme. Ça peut s'expliquer par le fait que pour les militaires, parler quechua, c'était être andin, et comme je l'ai dit, ça voulait dire être potentiellement sentieriste. Et c'est également au fait que pour le sentier lumineux, c'était important d'exercer beaucoup de violence sur ces communautés andines, largement quechuaphones, si on voulait faire pression sur le gouvernement. Donc la narrativa andina, elle illustre la façon dont les Andins sont réduits au silence, à bout portant, par leurs bourreaux. Les violences contre la population andine, finalement, elles sont minimisées. On considère que la vie de ces Andins n'a que peu de valeur. C'est à la limite, enfin, si on considère qu'ils sont pleinement humains, d'une certaine façon. Donc la narrativa andina montre bien qu'il y a une minimisation et une minorisation de l'Andin. Cette minorisation, j'ai pu en parler dans ma première partie, ça explique les différentes conditions, les difficiles conditions de production et d'édition de la narrativa andina qui bénéficient de peu de visibilité face à la narrativa criolla hégémonique. Mais en même temps, on peut considérer que la narrativa andina, en racontant les violences dont est victime la population andine, elle se fait sa porte-parole. Et donc, faire entendre cette langue andine, c'est faire en sorte que le génocide ne s'accompagne pas d'un linguicide. C'est aussi, et c'est le plus important à mon sens, c'est une façon d'intégrer l'andin à la nation, comme le souligne Ina Salazar, donc critique française qui travaille sur le Pérou, qui écrit « Es desde la lengua, en la lengua, donde se puede, se debe mover las fronteras, disolver los encasillamientos, cuestionar, corroer la autoridad de una cultura sobre otra. » Donc la narrativa andina, par son travail de recherche linguistique qui donne la parole à l'andin, elle constitue un levier de visibilisation et de reconnaissance des Andes, au sein d'un pays qui est toujours aujourd'hui profondément fracturé. Merci.
Merci beaucoup Mathilde, c'était vraiment passionnant. Et on va pouvoir ouvrir le second temps de questions et de débats. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir cette deuxième étape de débat ?
Bah d'abord, merci beaucoup. C'est des thématiques qui, moi, m'intéressent beaucoup, notamment tout ce qui est littérature mineure. Enfin, je travaille sur la photographie, mais c'est une question de la minorité de la production visuelle ou littéraire. Ça me parle beaucoup. Et notamment, la question du canon, que je trouve très, très intéressante. Et donc, en fait, je voulais savoir... Ça a été défini, le canon criollo? Ou est-ce que c'est c'est une idée qui est de ta production?
Alors, c'est un peu les deux. Ça a été défini, mais de façon très vague, mais par les auteurs andins. Donc, c'est des définitions qui ne sont pas vraiment prises au sérieux, je dirais, parce qu'on considère qu'il y a de la jalousie derrière, du ressentiment, etc. Je me base sur ce qu'ont écrit des auteurs andins, mais ensuite, je viens rattacher ça à des critiques, ce qu'ont pu dire certains critiques péruviens, latino-américains, etc., pour mieux réussir à le définir. Je me base aussi sur l'histoire, comme vous avez pu le voir, mais non, il n'y a pas vraiment de définition exacte.
Oui, moi, félicitations. Moi, j'ai une question. Moi, quand c'est très intéressant quand tu parles de narrativa criolla, narrativa andina. Mais moi, ma question sur la narrativa andina, que je connais, moi, je ne connais pas, c'est un sujet voilà, nouveau. Mais moi, c'est plutôt une curiosité. Bah, simplement, dans la narrativa andina, est-ce que aussi il y a dans la manière d'écrire, il y a une façon, on peut dire, plus réivindicative, qui critique aussi, ce que je veux dire, les bonnes manières de, parce qu'il y a aussi cette question de qui fait la narrative andina, qui fait la narrativa criolla, et la narrativa criolla était toujours plutôt l'élite du pays. Donc, bon, au Pérou, quand on parle d'élite, il y a une différence, on peut dire, raciale aussi. Oui. Donc, est-ce que les écrivains de la narrative andine, est-ce qu'ils s'incorporent dans les discours? Est-ce qu'il y a toujours cette question de critiquer les bonnes manières et le faire avec les langages, avec un langage plus direct et qui critique aussi les bonnes manières?
Qu'est-ce que tu entends par bonne manière? C'est au niveau littéraire ou...
Au niveau littéraire, oui, plutôt. Littérature, on peut dire, plus cultivée, voilà. C'est ce que, si, par exemple, il veut par contre utiliser une littérature plus, on peut dire, avec un discours plus direct, même, on peut dire même vulgaire, dans le sens de, voilà, nous sommes les peuples qui on est déjà fatigués de tous ces discours d'élite, parce que je comprends pas vraiment manière. C'est un peu la curiosité. Après, je veux dire pourquoi je pose cette question. Mais...
Bah, il y a de ça parce qu'ils revendiquent une écriture très orale en partie. Oui. De par leur culture qui n'était pas écrite, ils se basent souvent sur des mythes qui ont été transmis de génération en génération de façon orale. Donc, il y a vraiment une attention à l'oralité. Forcément, il y a aussi l'inclusion du vulgaire puisque ça fait aussi partie de l'oralité. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de critique de leur part par rapport à la narrativa criolla qui serait trop écrite. C'est simplement que eux, leur façon d'écrire, c'est voilà, une littérature plus marquée par l'oralité. C'est une autre façon d'écrire, finalement, une autre façon de raconter.
Ouais. Oui. Je t'ai posé cette question parce que bon, par rapport à mon sujet, bon, c'est pas par rapport à mon sujet, mais par rapport à Epitope, dans les années 70, il y a eu une littérature au Mexique, notamment c'était un écrivain qui s'appelle Armando Ramírez, qui a travaillé dans ce qu'on appelle la littérature populaire, et tous ses romans, tous ses œuvres sont inspirés dans les quartiers, et utilise la langue, comme tu viens de dire, orale, et surtout cette langue orale, un peu même vulgaire, pour critiquer en fait, le statut de l'élite.
Et donc, c'est un peu la même chose, oui.
Il y a aussi les néologismes, il y a aussi, c'est toujours l'humour, même. Oui, et au début, il n'était pas... Bon, c'est vrai qu'au début, il n'était pas bien accepté par les autres écrivains, mais finalement, il était bien intégré. Donc,
ouais, parce que c'est un reflet, finalement, de la façon dont s'expriment les gens. Donc, ouais. Il y a un certain réalisme aussi, je pense, dans cette écriture.
Oui, il y a un certain réalisme, surtout bon, ce que je connais un peu Armando et Ramírez, c'est surtout la façon comme il écrit les quartiers, les traditions, les rapports entre les familles et tout. Et c'est ce réalisme, on peut dire, qui est plus vivant, une littérature plus intéressante. Même pour un discours, comme je viens de présenter un discours qui est politique, travailler les discours ou ces discours politiques d'une façon plus quotidienne, ça fait très, très intéressant et même plus impactant pour les lecteurs.
C'est vrai.
Mathilde, tu m'as tendu une perche, donc je vais la prendre. Ça m'a fait très plaisir d'entendre parler de stratégie éditoriale, de canon littéraire, de maison d'édition.
J'avoue, tu m'as un peu inspirée quand même.
Ouais, d'entendre des tournures et des questions auxquelles je m'intéressais dans ma thèse et de les voir là, bah, je ne sais pas, je me dis c'est bien parce qu'on peut s'enrichir mutuellement dans nos sujets, donc c'est hyper chouette. Et je voulais te demander si tu sais si de nos jours, si là dans la période, je ne sais pas comment appeler ça, ultra contemporaine, est-ce que ces auteurs, ils peuvent être réédités ou pas? Est-ce que les maisons d'édition un peu plus... Enfin, les maisons d'édition, tout simplement un peu plus reconnues, elles s'intéressent à eux ou toujours pas? Parce que passer par le processus d'auto-édition, les prix littéraires, ça donne une première visibilité. Mais est-ce qu'il y a une réception un peu plus grande derrière quand même?
Ça va être une visibilité qui passe par des publications au sein d'anthologies, en fait. On a peu de rééditions juste d'un auteur, etc., de telle œuvre. Elles vont être insérées au sein d'anthologies qui traitent du sentier lumineux, du conflit armé interne, etc. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi, je les ai trouvées, parce que sinon, c'est extrêmement difficile de mettre la main sur ces ouvrages qui datent d'il y a 40 ans. Et oui, c'est plus dans des anthologies, en fait. Des choses très spécialisées, ça, c'est pas grand public.
D'accord. Donc, voilà, y a pas encore une reconnaissance de cette littérature en elle-même, quoi.
Non. Après, il y a un auteur qui se différencie un peu des autres, c'est Oscar Colcialolucio, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, lui, comment dire, il a condensé, on va dire, enfin, il s'est basé sur ses ouvrages de jeunesse, ses textes brefs, et il en a fait, dans les années suivantes, des romans, qui ont eu un tel succès, qu'il y a eu des films qui ont été faits, etc. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une certaine portée encore aujourd'hui. Il a même fait des adaptations pour enfants. Donc, voilà, ça, c'est un peu une ouverture aussi. Mais ce n'est pas vraiment ces récits brefs en tant que tels. Non, ils ne sont pas réédités, réédités tels quels.
C'est impressionnant quand tu parlais d'une publication de 6 pages, c'est ça,
pour le récit. Ouais. Oh. Oui, je ne sais pas. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça non plus avant, mais oui, c'est très particulier. Je pense que ça a pu se faire uniquement parce que, voilà, il faisait ça en famille et que c'était relativement, je ne vais pas dire facile, mais en fait, son père, c'était un important poète donc de Cusco et il était aussi critique littéraire, etc. Donc, à la maison, on imprimait quand même pas mal de choses. Donc, je pense qu'il a pu aussi bénéficier du milieu de son père pour pouvoir imprimer des textes de 6 pages, ce qui est quand même assez original.
Ce n'est pas vraiment une question, c'est juste un petit commentaire. Déjà, j'ai trouvé ça super intéressant, Mathilde. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé tes exemples et tes analyses. Et ce que tu as expliqué, ça m'a fait penser à un podcast qui s'appelle El Hilo, qui a fait un épisode sur qui s'intitule El Muerto que no muere, je crois. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un épisode au sujet de Abimael Guzmán, qui est présenté comme El hombre más odiado de Perú, et qui est donc un des leaders, ou le leader, je crois, de Sendero Luminoso, et qui est, et en fait tout le podcast tourne autour du fait que cet homme est mort en prison et que l'État ne savait pas quoi faire avec ce corps, sachant qu'il voulait pas lui donner l'enterrer et que le peuple sache où est-ce qu'on allait l'enterrer, justement, dans un processus d'ostracisation, de silenciation de sa personne et d'oubli de sa personne. Et donc, voilà, il y a toute cette idée de silencier, finalement, cet homme qui a fait tant de mal au pays. Et je trouvais ça très intéressant, en écho, justement, à tout ce que tu disais de silenciation de ces communautés par, voilà, Sendero Luminoso. Et là, justement, l'État qui essaye de silencier ce leader, finalement, ce représentant de Sendero Luminoso. Donc, si jamais ça t'intéresse, c'est pas du tout, c'est un podcast qui est pas du tout littérature ni rien, mais peut-être que ça peut t'intéresser en tout cas.
Bah, merci Lou, parce que j'avais pas du tout la référence. Par contre, ça me parle complètement aussi. J'étais en train de travailler justement là sur un chapitre de la thèse qui sera justement sur ces morts qui ne meurent pas. Et je pensais en conclusion parler de ce que quand il est mort, ça a posé plein de questions. On a quand même créé une loi pour le faire incinérer, pour que ses cendres soient répandues dans la mer et qu'on n'ait pas à l'enterrer ni au sein d'une communauté religieuse, parce que ça voudrait dire que cette communauté approuve le santérisme, ni dans un lieu particulier pour pas qu'il y ait de mausolée qui soit créé, etc. Et oui, bah, c'est super intéressant, merci Lou. Ouais, je vais regarder ça de plus près. Et oui, évidemment, c'est la mémoire aussi du vainqueur qui s'impose ici. Je pense que c'était le sentier lumineux qui avait gagné, ce qui est totalement inconcevable, je pense. Voilà, le discours, la mémoire qui en ressortirait, le silence qui est imposé, il ne serait pas dans le même camp, finalement. Et ben, on a l'habitude d'opposer au Pérou Abimael Guzmán, donc le leader du sentier lumineux, responsable de beaucoup de crimes contre l'humanité, de violences extrêmement graves, etc. Et donc on a Abimael Guzmán d'un côté et on oppose de l'autre côté Alberto Fujimori, donc président de la République, qui lui aussi a causé vraiment beaucoup de mal au pays, même si beaucoup de Péruviens auraient du mal à l'admettre, et s'il y en avait dans la salle, je pense que je me ferais un petit peu lyncher. Mais par exemple, il a procédé à beaucoup de stérilisations forcées de femmes andines, parce que pauvres, et donc si on veut éradiquer la pauvreté, il fallait stériliser ces femmes. Enfin, voilà. Donc Abimael Guzmán, lui, on l'a condamné au silence, en prison, c'est extrêmement difficile d'avoir des témoignages de lui. Par contre, Alberto Fujimori, lui, c'est pas du tout la même chose. C'est un ancien président qui était en prison. Lui, bon, il peut s'exprimer en toute impunité. On voit bien qu'il y a une différence entre le vainqueur et le perdant.
C'est super intéressant, en tout cas.
Merci. Moi, j'avais aussi... Donc, Mathieu, je voulais aussi te féliciter parce que franchement, j'ai trouvé ta présentation super, hyper étayée et hyper claire. Et te remercier aussi parce que j'ai vu énormément de ponts avec ce que je travaille sur le conflit armé au Pays Basque. Donc vraiment, on pourra en reparler lors du colloque, parce que franchement, c'est
hyper... J'avais bien l'impression aussi qu'on avait beaucoup de...
Mais là, de plus en plus, tout ce que tu dis, la littérature mineure, la langue, la subalternité, les personnages narrateurs, la situation... Enfin, je notais même les points communs, je me disais, c'est quand même assez fort. Ouais. Et j'avais deux questions, justement, à ce propos, une plus thématique et une autre plus stylistique. Est-ce que tes écrivains se revendiquent comme andins? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se disent, on est fiers d'être andins? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils se disent, par exemple, ça c'est la première question, est-ce qu'ils se disent andins et est-ce que dans ça, ils se disent, il y a une manière d'écrire quand on est andin? Il y a une spécificité linguistique qui fait qu'on doit parler d'une manière ou écrire d'une manière ou...
Globalement, ils se revendiquent comme andins et ils disent qu'ils commencent à se revendiquer comme andins quand ils commencent à écrire ces œuvres que j'analyse. Donc ça passe vraiment, enfin cette revendication de l'auteur andin, elle passe aussi vraiment par l'écriture. Et bon, ils ne disent pas qu'il faut écrire de telle façon, mais on voit quand même dans leur discours qu'il y a une certaine définition de l'écriture andine, bah, marquée par l'oralité, comme je le disais, marquée par le mélange des deux langues, etc. Ils se rassemblent en quelque sorte autour de plusieurs caractéristiques comme ça. Plusieurs thématiques aussi, l'importance du mythe qu'on peut retrouver dans les textes. Peut-être que toi, dans les textes que tu étudies, c'est la même chose.
Ça me fait penser aussi, tu as étudié donc, tout ce qui était une perspective donc, du silence, on a vu par la langue, par les personnages. Est-ce qu'à l'inverse, tu as des contes, des romans, où tu as à l'inverse une crudité presque littéraire, quelque chose de très cru, où on te présente la violence sous tes yeux et que c'est même, au contraire du silence, c'est même dans l'excès, quoi.
Oui, tout à fait. Et dans un sens, ça rejoint parfois un peu le silence par rapport au fait que les phrases sont extrêmement brèves. Enfin, dans le sens de cru, c'est que c'est aussi très laconique. C'est très, on va pas faire de détour. C'est très brut. C'est très, voilà, il y a aussi ce côté-là. Ouais.
Non, mais c'est super. Merci beaucoup, Mathilde. Vraiment, merci beaucoup.
J'ai une petite question aussi encore. Si personne ne veut parler. Je me demandais aussi, est-ce qu'il y aurait un... En plus du fait que ce soit andin et de la langue, ce qui fait quand même beaucoup de choses pour un type narratif, mais est-ce qu'il y a un genre, par exemple, qui va être plutôt privilégié par les écrivains, écrivaines, je ne sais pas, par exemple, le roman policier, ou tu avais l'air de dire qu'il y avait plutôt des récits courts, mais plus dans les thèmes, en fait... Ou par exemple une écriture plus journalistique, je ne sais pas.
Au-delà du récit bref, j'aurais dû pas là te répondre. Le récit policier, on ne le retrouve pas trop, c'est justement plus ce qu'on retrouve sur des auteurs plus criollos, qui vont apporter plus ce regard policier, faire se croiser le contexte historique et le roman policier. Non, au niveau des thèmes, c'est assez vaste finalement. Je ne saurais pas trop te répondre. Qui est journalistique, pas trop non plus. Non, je ne saurais pas trop te répondre.
Oui, non, c'était juste une question comme ça. Je me disais, ça se trouve, je sais pas, il y a des motifs ou des trucs qui reviennent, mais
merci. Il y a beaucoup le mythe, enfin ils reflètent leur cosmovision, leur culture, etc. C'est surtout ça, quoi.
Et ah oui, une autre question qui, enfin, qui découle un peu de celle-là. Comment est-ce que tu dirais que la description des criollos, du coup, elle est différente de celle que... Enfin, j'imagine que déjà la description d'eux-mêmes en tant que candins, elle doit être différente de celle dans le canon criollo, comme tu disais. Mais est-ce que finalement le regard sur l'autre, il est tout aussi mis à distance que dans le canon criollo par rapport aux Indiens? Je ne sais pas si ma question est très claire.
Tu peux me...
Est-ce que tu dirais qu'il y a la même distance et la même mise à distance de l'autre qu'on peut retrouver dans le canon criollo, mais dans le canon andin, envers justement los criollos?
Oui, il y a aussi un regard très critique, c'est ça que...
Oui, c'est ça, c'est cette espèce de, je sais pas, d'exotisme qu'on peut avoir genre, dans le canon criollo. Est-ce qu'il est renversé Est-ce qu'il est plutôt critique? Est-ce que au contraire inclusif? Je sais pas.
Non, c'est pas vraiment inclusif. Ils sont assez critiques par rapport aux auteurs. Enfin, moi, je travaille que sur. Je travaille pas sur la narrative en général, la narrative indienne en général, mais sur le conflit armé interne. Et souvent, ce qui revient, c'est les critiques par rapport à l'écriture des auteurs criollos sur ce conflit armé interne, sur le manque de vraisemblance. Sur voilà, le fait de ne pas avoir vécu dans les Andes et de ne pas avoir su ce que c'était vraiment, et de se permettre d'écrire des romans entiers là-dessus. Il y a aussi ce regard critique qui transparaît. Ils critiquent également l'écriture, une écriture trop facile selon eux, trop mainstream un peu, si on peut employer ce terme-là. Et évidemment, sur la figure du créole en général, pas sur la figure de l'écrivain créole, mais du créole en général qui vient de la côte, là, on a vraiment l'idée de racisme qui transparaît sur le fait que, voilà, ils se prennent pour des êtres supérieurs par rapport aux Andins, et que c'est aussi ce qui a motivé les violences pendant le conflit armé interne.
Ça donne envie de lire.
Difficilement accessible, c'est ça le problème. C'est des œuvres qui ne sont pas très connues, et c'est vraiment la littérature, voilà, faut la trouver, quoi.
J'ai une autre question. Moi, c'est plutôt une curiosité, parce que quand tu nous as parlé de que le racisme est tout le temps présent, mais ça, c'est le racisme du créole contre l'indien.
Oui.
Est-ce que dans cette littérature, cette littérature, il parle aussi du racisme entre les Indiens?
C'est une bonne question.
Oui, parce que normalement, on a cette idée, oui, de. Voilà. Mais moi, cette phrase que tu as mis de. Tu l'as noté, donc, c'était India de mierda. Mais ça, c'est une façon très réaliste de parler de ce sujet. Mais ouais. Moi, je te pose cette question parce que moi, je vécu au Mexique pendant très longtemps. Moi, c'est ce que ça m'a choqué, c'est voir le racisme entre les Indiens, entre eux, par exemple, insulter un autre comme un Indien.
Oui.
Donc, si est-ce que dans cette littérature, il y a cette conscience aussi, parce que ça, c'est ce qu'elle nous montre, c'est l'influence que toute cette culture créole a eu vraiment dans l'imaginaire des Indiens, qu'eux-mêmes, ils reprennent ces insultes. Même, je pense que s'ils ne sont pas conscients ou non, mais c'est comme le racisme est très très fort et partout arrive jusqu'à tel point. Donc c'est une curiosité pour savoir si cette littérature, si tu as trouvé par exemple des cas où le auteur il parle de cette réalité qui des fois on ne connaît pas.
On ne le retrouve pas tant que ça. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'exemples dans les textes, mais c'est aussi quelque chose que moi j'ai pu observer au Pérou, et je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, enfin, au Pérou, on dit, je ne sais plus comment c'est la phrase, mais « siempre hay más cholo ». Cholo, c'est l'Indien qui essaie de s'intégrer à la vie occidentale. Enfin, il y a toujours plus cholo que soi-même. Enfin, il y a toujours plus noir, il y a toujours plus foncé que soi-même. On croit toujours être plus blanc que l'autre, etc. Mais oui, on le retrouve pas vraiment en tant que tel dans les textes, mais j'ai un exemple d'un texte, par exemple, où on a justement des Indiens qui sont enrôlés au sein du Sentier Lumineux et qui font preuve de racisme auprès des populations qu'ils doivent violenter. Enfin, donc, il y a quand même une certaine intériorisation comme ça d'un racisme, mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'on leur a mis des armes entre les mains et on leur a dit « maintenant, vous allez appliquer la justice populaire ». Donc, ils se sentent un peu comme des autorités et donc les autres, en position d'infériorité, sont traités avec un certain racisme aussi. Mais je n'ai pas la sensation que ce soit lié uniquement au racisme, en fait. Je pense que c'est lié au fait qu'ils aient été incorporés par le Sentier Lumineux en texte, quoi. Mais il y a peu d'exemples, c'est vrai. On retrouve souvent, les soldats, typiquement, c'est toujours des blancs. Enfin, ou métis, quoi. Mais...